Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Father, mother, sister.
Why don't you listen to me?
J'ai décidé de rendre à la terre ce corps de souffrance. Aujourd'hui, je désire mourir.
Cuando decidí hacer un arte para sanar, salí de mi encierro como una torre de marfil y entré en el dolor del mundo.
Dime la frase. ¡Aquí estoy!
En cette funeste année 1960, un sombre bureaucrate instaura à Mexico la censure théâtrale pour les œuvres qu'il appelait, dans son cerveau de singe, d'avant-garde. Raconte le cinéaste, scénariste, poète, dramaturge et tarologue chilien Alejandro Jodorowsky. Portant beau ses 90 printemps, l'auteur de La Montagne Sacrée ou de L'Incale avec Moebius ajoute qu'à l'époque, il lui fallait non seulement envoyer le texte à un très gouvernemental bureau des spectacles avec description de la mise en scène, mais supporter aussi la visite d'un inspecteur susceptible de caviarder tout ce qui lui semblait nocif. En cas de désobéissance, ce dernier interdisait la pièce, comme pour ses adaptations de Strindberg ou de Ionesco, ou encore son opéra de l'ordre. Je fus placé sur liste noire. Mes cours de mime aux Beaux-Arts furent supprimés. J'étais maudit, écrit Jodot. Plus aucun impresario ou directeur de théâtre ne voulait travailler avec moi. Les peintres, musiciens, acteurs ou écrivains qui avaient gagné en popularité avec mes spectacles n'osaient pas me tendre la main. Je vivais de rien, perdais du poids, broyais du noir. Pourtant, dans les loges d'un cabaret où chante son épouse pour subvenir aux besoins du couple, ce trentenaire subversif a l'idée, entre minuit et 4 heures du matin, au milieu de tables couvertes de maquillage, de lingerie à paillettes, de faux seins, d'éventails à grandes plumes, de filles nues et de cris rauques d'ivrognes lubriques, de se lancer dans la première et unique BD dont il sera à la fois le scénariste et le dessinateur, tout juste équipé d'une gomme et d'un crayon alors qu'il n'a jamais étudié le dessin. Publié dans le journal mexicain El Heraldo de 1967 à 1973 et réédité chez Actes Sud, ces Fables paniques flirtent avec l'art brut et le psychédélisme, chaînon manquant entre Max Ernst et Terry Gilliam, selon la formule de Nicolas Telop dans Les sept vies d'Alejandro Jodorowsky apparaître aux humanoïdes associés. Jodorowsky s'y représente menacé par l'orgueil, l'envie, la méchanceté, mais accompagné d'un gourou hippie, transposition probable du véritable maître japonais auprès duquel il s'initia au zen. Disciple capricieux et inattentif, le Jodo de papier ne cesse d'être remis sur le droit chemin jusqu'à apparaître lui-même comme un sage, manifestant peut-être, nous dit le critique, pour la première fois son goût pour un art qui guérit. Guérir par l'art, c'est aussi la leçon de son nouveau film, Psychomagie, documentaire extraordinaire en salle le 2 octobre, dans lequel une dizaine de consultants anonymes et ce très cher Arthur H réalisent un acte symbolique en dialogue avec leur inconscient, propice à dénouer des frustrations, des peurs, des deuils impossibles à gérer, et ainsi sortir de la cage psychique dans laquelle notre famille, notre société et notre culture nous ont enfermés. Ce qu'il détaillait déjà dans Psychomagie, le livre, recueil d'entretiens sorti l'hiver dernier chez Albin Michel et dédié aux jeunes mutants. C'est ce dont nous parlions déjà dans cette émission dimanche dernier, au domicile d'Alejandro Jodorowsky, qui nous a reçus en pantoufles de velours noir ornées de couronnes dorées pour une conversation très spirituelle en deux épisodes d'une heure, dont voici la seconde partie, au cours de laquelle nous évoquerons sa légendaire adaptation inachevée de Dune, le dernier volet de sa merveilleuse trilogie autobiographique qui se terminera par Le Voyage Essentiel, après La Danse de la Réalité et Poésie sans fin. Comme il le dit lui-même, d'une peau de tigre accrochée au mur, nous ferons des tigres. Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova, que vous retrouvez chaque dimanche de midi à 1h, tel un oasis de sagesse dans votre brunch. Thank you.
The mind is like a universe. It's a constant expansion. Like the universe, exactly like the universe. Open the mind. The opening of the mind is every day.
Bonjour, Alejandro Jodorowsky.
Bonjour.
Merci infiniment de nous recevoir chez vous, dans votre bibliothèque entourée de 1000 livres. Parmi tous ces ouvrages qui se trouvent dans cette pièce, est-ce qu'il y a des écrivains morts ou vivants qui, aujourd'hui, peu importe le genre ou le pays, vous éclairent encore? Est-ce que, par exemple, des auteurs qui ont été décisifs pour vous, comme Cocteau ou Giraudoux, que vous avez joué dans votre jeunesse au Chili, ou bien Beckett, Tardieu, Ionesco, Nietzsche, Gogol, que vous avez mis en scène au Mexique?
Il m'a mis. Mais maintenant, je suis en train de lire ça, chinois qui habitait dans un lieu qui s'appelait Guangpo, qui a créé les Koan. Ça m'a mis, à moi, ça me donne quelque chose à lire Lao Tse. J'ai pu lire l'Ecclésiaste de la Bible. Ça, c'est que mes sœurs sont les écrits de sagesse. Ah. La littérature ne m'a mis pas parce que c'est complètement décadent, narcissiste.
Tout le monde est narcissique ou décadent.
Je ne peux pas dire tout le monde parce que je ne suis pas idiot, tu vois. Heureusement. Je ne peux pas dire généralité, ce n'est pas avec moi, non? Je ne crois pas aux généralisations. Non, non. Une grande partie. Mais comme c'est une industrie, la littérature aussi c'est une industrie, c'est l'amusement. Et la recherche de spiritualité, bon, ça demande moins de public, moins d'action dans la masse. Alors, il faut descendre. Et j'avais un ami, Nicanor Parra, c'était un poète chilien formidable qui s'est insurgé contre Neruda, qui était le grand poète, ainsi, qui est descendant, philosophe, poétique, il est le grand poète, le grand poète romantique, disons. Et lui, non, il a dit, les dieux ont descendu de l'Olympe. Les dieux ont descendu de l'Olympe. C'est-à-dire les artistes doivent descendre de l'aérolampe narcissiste. C'est plus le moment. C'est plus le moment.
On a autre chose à faire. Quoi,
c'est raconter mes malheurs et montrer je suis un écrivaine, femme ou homme, et je montre comment je suis féroce et ordinaire, n'est-ce pas? Et j'étais prostituée dans une époque, et maintenant, où je couche avec Van Gogh. Bueno, c'est pas le moment. Ça sert à rien. Bon, ça sert que la personne ait une certaine notoriété, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui va rester de tout ça?
Rien, probablement.
L'amusement.
Ouais.
L'amusement. Une chose que je suis arrivé avec la vie, c'est à jamais mentir.
C'est bien.
Ça c'est très important.
Ouais.
Non, mais c'est très sérieux que je te dis, parce qu'on vit dans les mensonges. Presque tous les êtres humains mentent. Maintenant, tu sais, tous ces livres que tu vois, je prends un livre, je les lis, je n'ai même pas l'auteur.
Ah oui.
Je ne lis pas les livres pour auteur. Je lis un livre, s'il me dit une chose, je l'incorpore. C'est pour moi. C'est moi qui ai écrit tout ça. C'est toi. Chacun de nous a écrit tout ça. Si?
Oui.
Si?
Si, bien sûr.
Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Alejandro Jodorowsky, j'aimerais revenir un instant sur ce fabuleux documentaire signé Frank Pavitch, sorti en 2016, qui raconte en détail ce qu'aurait pu être votre adaptation de Dune qui a failli voir le jour au milieu des années 70, à partir de ce classique de science-fiction de Frank Herbert. Alors vous vouliez en faire une expérience spirituelle pour le spectateur, aller là où le cinéma n'est jamais allé, avec un film sensoriel de 12 heures, la collaboration de Moebius, de Giger, de Dan O'Bannon pour le design des décors, vaisseaux, costumes, Pink Floyd ou Magma pour la BO et au casting, des personnalités aussi diverses que Orson Welles, Dali ou Mick Jagger. Alors, puisque nous sommes dans une émission littéraire, est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs pourquoi ce roman-là, Dune, ou ces romans-là, puisqu'il s'agit de tout un cycle qui a été publié dans les années 60 aux années 80, pourquoi ces romans étaient plus adaptés que d'autres pour porter ce fantasme que vous aviez de films hors du commun?
Je dois te dire que tous ces personnages, artistes que tu as nommés, ce n'était pas un projet. C'est des personnes qui ont signé pour faire les films. C'est des personnes que déjà j'avais trouvé tout ça. C'était trouvé. Et Michel Sédoux,
le producteur,
a mis un argent sans limite pour faire ce que je voulais. Et je me suis lancé à faire ce que je voulais. Je lui ai dit, Dune, je vais faire.
Pourquoi?
Ah, très bien. Il n'a pas demandé parce que Michel Sédoux n'aimait pas lire. Il était plutôt cinéma, tout ça. Il me croyait, non? Il n'avait pas lu. Il n'avait pas lu Dune, mais il y avait un ami, un jeune homme, ami du dessinateur au Mexique, qui adorait Dune. Et il m'avait raconté que c'était... J'aimais beaucoup la science-fiction, hein, que c'était une science-fiction écologique. Ah là, ça va être formidable. Une science-fiction écologique, je pourrais dire tous mes idées spirituelles, etc. Alors, j'ai c'est Dune, je l'ai dit. Et donc, il m'a amené en France pour faire Dune. Et dans le chemin, j'ai commencé à les lire, et je me suis rendu compte que j'étais sans problème. Parce que lui, c'était une écriture proustiante de développement littéraire, mais très difficile à le faire avec des images cinématographiques. Alors j'ai dit, traduire tout ce monde, que c'était formidable, à des images cinématographiques. C'est, j'ai dit, mettre beaucoup. No? Le donné encore visuel à une chose qui était formidablement littéraire. La première centaine de pages de Dune, tu ne comprends rien. N'importe qui, je lisais, tu es perdu là. Et à peu, tu commences à comprendre, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai fait Dune. Mais j'ai eu la chance, tu vois, il a la synchronicité. Le miracle que te met quelque chose dans les mains, et c'est juste la chose précise. Hein? Moi, quand j'ai rencontré Pascal, ma femme, je ne savais pas qui était son esprit, parce qu'il était très fermé en soi-même. Non? Et on avançait sans savoir de quoi s'agissait-il le couple. Mais j'étais courageux et je me suis marié avec elle. Elle aussi était courageuse, parce qu'aussi elle ne savait pas ce qui se pouvait se passer avec moi. On a été courageux. Et le destin a voulu qu'on n'a pas fait une erreur, c'était parfait. Tu vois, c'était parfait. Et la rencontre avec Dune était parfaite.
Est-ce que vous croyez que la reprise de Dune par le Québécois Denis Villeneuve, qui est prévue pour Noël 2020, elle portera des traces de ce rêve fou?
Si, mais ce sera jamais ça, parce qu'à cette époque-là, j'ai aucune différence entre les personnages et l'acteur que j'avais choisi, parce qu'il avait choisi des célébrités. C'était ça. Mais pour les utiliser à ma façon. À Orson Welles. Il était énorme, hein? C'était un éléphant. Alors, le baron Harkonnen, c'était idéal, tu vois.
Oui.
Et l'autre, c'était celui que faisait que Tarantino l'a utilisé, qui s'est suicidé dans son armoire.
Ah, David Carradine.
David Carradine. Il était en décadence, personne. Et j'ai parlé avec lui. Et j'ai senti que lui était le personnage. Tarantino l'a découvert après, quelques années après. Et donc, ça m'a démontré que j'avais raison. Il aurait été formidable, avec lui. Et le fils, qui était sans portant, qui était un garçon blond, c'était mon fils Brontis. Le même que joue avec moi en El Topo. Et j'ai avec un professeur français que j'adore, Jean-Pierre Vigneault, qui c'était un espèce de Superman du karaté, l'a entraîné. Complètement, en le montrant tout l'usage des armes, a fait de lui un guerrier, mon fils. On a travaillé ça. Alors, c'était un film qui travaillait une certaine réalité, tu vois.
Et donc, il y a absolument aucune chance que dans le futur Dune, qui sortira dans un peu plus d'un an au cinéma, il n'y aura pas de trace à votre connaissance de ce rêve.
Hollywood n'a pas la spiritualité qui puisse faire un projet comme ça. N'a pas. Mm. C'est pas possible. Alors, et ça va être de nouveau un hyper spectacle, non, d'amusement. Et peut-être qu'il peut y avoir un énorme succès comme la Guerre des Trônes, non?
Game of Thrones, ok.
Game of Thrones, okay. C'est un succès mondial,
ouais.
D'amusement. Parce que maintenant, c'est presque oublié, c'est passé. C'est comme une boule de savon.
Ouais. C'est passé.
On s'est bien amusé, quelle ouais. merveille. Et quoi? Walt Disney, quelle merveille, et quoi?
Ouais.
Hein? Walt Disney, le pire et le pire des pires des producteurs, maintenant c'est le roi. Dommage.
Mais est-ce que quelqu'un vous a proposé, depuis la sortie de ce documentaire sur Dune, de reprendre le projet, par exemple en film d'animation?
Si, mais il y a un problème parce que les guides de Dune, c'est un livre que j'ai montré.
Ouais, qu'on voit dans le film.
Qui est un exemplaire. Et j'ai demandé à Moebius que je l'ai dicté, il dessinait les pages. Mais on a de terribles problèmes avec sa veuve.
Ah.
Qu'elle ne veut pas qu'on. Qu'elle ne veut pas, parce qu'elle ne veut pas comprendre que ce n'était pas une œuvre faite à deux. La Moebius a été à mon service. C'était pas un créateur, c'était un artiste, un artisan, pour faire un guion pour que je puisse filmer. Alors, chaque matin, on travaillait 8 heures, et moi, je l'ai dicté les choses. Alors, elle ne veut pas ça, elle veut l'inégalité comme créateur de Dune. Alors on ne peut pas.
Donc pour l'instant, il y a ce qui est la bible de ce projet, c'est-à-dire cet énorme livre qui doit faire, j'en sais rien, 3000 pages qu'on voit dans le documentaire. On ne peut pas y toucher pour des histoires de droits, c'est ça?
Et Tachin est venu me chercher, c'est le grand éditeur, il veut le voir, non?
Oui.
Il a dit, vous, tu vas peut-être à ma mort, parce que quand je vais mourir, après, il finira pour mourir. Alors à sa mort, tu le feras. Alors il va falloir attendre. Veuillez-le dire qu'il ait une longue vie.
Nova Book Box. Nova te masse la tête avec des mots très doux.
Bella.
I put a spell on you, ce classique du rhythm and blues signé Screamin' Jay Hawkins en 1956, ici repris par le ténébreux Marilyn Manson. Manson, fan absolu, ami, disciple de mon invité d'aujourd'hui, Alejandro Jodorowsky, le cinéaste, poète et scénariste chilien, l'auteur d'El Topo, des Yeux du Chat ou de la caste des Métabarons, qui nous reçoit chez lui à Paris. Rappelons que le 3 décembre 2005, dans un château en Irlande, Jodorowsky fut le maître de cérémonie du mariage entre Marilyn Manson et la danseuse et mannequin Dita Von Teese, Jodo ayant revêtu pour l'occasion la même tenue blanche d'alchimiste et son grand chapeau que dans son film La Montagne Sacrée, que Manson considère comme l'une des deux œuvres d'art ayant eu la plus forte influence sur lui, l'autre étant la Bible. Le jour du mariage, Jodorowsky incita les futurs époux à vivre, tel que l'a rapporté Vogue à l'époque, un amour non exclusif, en célébrant leurs différences complémentaires, ainsi que la recherche d'un plaisir mutuel et sans limite. Manson dira « On s'est séparés 3 mois plus tard ». Et Alejandro m'a confié qu'il avait su que le mariage serait un échec, quand il a dit « Vous pouvez embrasser la mariée » et que Dita a vérifié son rouge à lèvres. Alejandro, pour les 25 ans de l'étrange festival, le rendez-vous parisien incontournable des amateurs et professionnels de cinéma bizarre, fantastique, épouvantable ou formidablement déviant, vous avez projeté, en première mondiale, une version remontée de votre film « Le voleur d'arc-en-ciel » sorti en 1990. Un remontage qui vous rend très heureux car vous détestiez la version originale. Je rappelle que Le voleur d'arc-en-ciel avec Peter O'Toole, Omar Sharif et Christopher Lee est l'histoire d'un prince qui, suite à la mort d'un parent milliardaire, trouve refuge dans les égouts pour fuir sa famille qui en veut à son héritage. Je crois que vous n'aimiez pas le film à cause de la pression que vous aurez mise à l'époque la production. On vous avait confié un budget de 15 millions de dollars. Et à cause de ça, un détective vous surveillait. Il téléphonait à la production pour signaler tous vos faits et gestes. Et quand vous avez terminé le tout premier montage, vous avez dû vous mettre à genoux devant le producteur pour terminer la chose. Alors j'ai du mal à croire qu'on puisse, en 1990, coller la pression à Jodorowsky. Pourquoi vous avez accepté ?
J'ai accepté parce que moi, personne ne m'a appris le cinéma. Les premières filles fans d'Ulysse, je suis allé le plus loin de tous mes films, je ne savais rien du cinéma. Quand je voulais faire un mouvement de caméra, je ne savais pas même le dire quoi faire. Alors j'étais collé à son dos, attaché au photographe, et j'ai bougé, moi, j'ai bougé la caméra avec le photographe, parce que je ne connaissais rien du cinéma. Et tous mes films jusque-là, je les avais faits pour ce que j'avais vu du cinéma, mais je ne savais pas ce que c'était le cinéma professionnel. Alors je parle tellement de cinéma industriel, je vais le connaître. Donc j'ai accepté, j'ai signé le contrat, j'ai accepté toutes les règles du cinéma industriel. Et c'est ça qui est formidable, parce que là j'ai connu que j'avais raison. C'était l'enfer. C'était terrible. C'est terrible, c'est rien à voir avec le cinéma artistique de Hotel, rien à voir. Donc, le voleur d'arc-en-ciel, c'est une espèce de monstre, c'est moitié cinéma industriel, et moitié les détournements que je fais de cinéma industriel. Et ça finit pour faire un film d'auteur. C'est une bataille que tu vas avoir devant tes yeux, parce que les acteurs commencent dans le vieux style. Tu sais, dans le Ségou, il y a une invasion d'eau qui arrive, non? Et les deux acteurs là, Peter O'Toole et Marcharif, tombent dans l'eau, ils doivent nager pour se sauver. Peter O'Toole a fait un contrat qui disait l'acteur peut rentrer dans l'eau seulement jusqu'à ses genoux. Jusqu'à ses genoux, oui, mais se mettre dans l'eau, jamais. Et moi, j'ai trouvé la façon de t'y voir, de le noyer dans l'eau. Je suis arrivé. Et il a fait ce qui fait l'acteur, un acteur qui est une véritable situation de danger. Ce film-là, il a 15 copies. J'ai coupé la copie. Ce film-là peut se montrer une, deux ou trois fois, pas plus. C'est pas pour l'exploiter cinématographiquement, non? J'ai mis tout ça, et ça a coûté, un peu cher, mais pour me donner le plaisir d'avoir le film dans la mesure que je peux l'améliorer, qu'on ne dise pas que c'est un film de merde. Et maintenant, je suis en train de faire la même chose. Il y avait des échecs. Le voleur d'arc-en-ciel et Tusk. Un autre film de la vie d'un éléphant à Nantes.
Que vous avez filmé ?
Que j'ai filmé.
Il y a longtemps ?
Il y a longtemps.
Tusk. Les Indes au début de ce siècle. Les Maharajas, alliés complaisants de l'Empire britannique et leurs richesses. Morrison, le colon, qui règne sur plusieurs milliers d'hectares.
Tu vois le petit éléphant qui est là ? Il est à toi. Son maout l'a appelé Ganesh. Mais nous, nous sommes anglais et nous l'avons appelé Tusk.
Oh, ça m'a dit.
Sa fille.
Élise ! Ne touche pas à cet indien.
Cairns, un aventurier.
Vous et votre troupeau avez une solide réputation.
Un chasseur.
On m'a dit aussi que vous avez un éléphant très exceptionnel.
Oui, Tusk.
Cet éléphant, pourquoi a-t-il tant d'importance pour vous ?
C'était à l'époque où je n'ai pas fait d'une.
Ah oui.
Je suis tombé dans un vide, là. Et on m'a offert aussi un cinéma industriel, Patasque, ici, d'Eric Rocha, un acteur qui avait fait un film érotique avant, un producteur, et qui voulait que je fasse un film d'aventure avec 1000 éléphants et un éléphant géant. Et j'ai signé que j'allais faire ça, combat, etc. Il m'a fait signer que j'allais faire ça. Et en arrivant à Inde, il n'y avait pas d'éléphant géant. C'était un simple éléphant de travail. Il y avait 10 éléphants, pas 1000. Et j'ai dû faire ce que je pouvais. Parce que il m'a mis prisonnier en Inde par les contrats. Et j'ai dû finir ce film-là. C'est une histoire pour enfants. Hein.
Et vous voulez le remonter également et
Non, je suis en train de le faire
vous
déjà.
Vous êtes en train de le faire.
Je suis en train d'enlever de l'un de l'autre tout ce qui est en plus. Tout ce que les producteurs mettent. Ils sont tous morts. Hein. J'enlève tout ça. Tout ça. J'enlève la femme du producteur, qui était là, qui s'est donné un rôle, etc. Tous les mauvais rôles, je les ai éliminés. Et ça reste un squelette, que c'est ce que je voulais faire, qui n'est pas mal. Alors là, je m'ai guéri de cet échec.
Dans votre livre Psychomagie, vous dites que depuis 30 ans, vous travaillez toujours avec la même musique de fond, qui sont des harpes celtiques, si. Hypnotiques, qui oui. Vous apaisent.
Je peux te la mettre, il est là déjà. Tu veux que je dois appeler Pascal et pas les mettre. Bon. Tu veux Pascal Pascalita, viens mettre la musique. Mets l'harpe.
L'harpe.
Mon harpe.
Oui, je...
Non, mais mets-la.
Ah, d'accord.
C'est Alan Stivell, cette musique, c'est lui qui l'interprète, c'est ça?
Je ne connaissais pas, j'ai trouvé ce livre-là à Los Angeles, dans une librairie ésotérique.
Ah oui.
J'ai vu ça, je l'ai acheté à la librairie ésotérique. Et c'était un garçon français, je pense. Je l'écoutais. Et à moi, ça me sert, parce que j'ai des sons du calme, tu vois, les fenêtres ici, tu n'écoutes pas de bruit, parce qu'ils sont doubles.
Ah oui, oui.
Ici, pour se concentrer, non?
Et ça fait longtemps que cette musique vous accompagne dans votre travail?
Plus de 30 ans, plus.
Ah oui.
Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
J'ai encore une question sur votre livre, Psychomagie.
Oui.
Parce qu'à l'intérieur de ce livre, vous évoquez une belle utopie sociale et politique qui résonne bien avec notre époque. Vous dites qu'à l'école, les enfants ne devraient pas avoir un maître ou une maîtresse, mais les deux,
oui.
De manière complémentaire. Et nous, adultes, citoyens, nous devrions voter pour élire un président et une présidente
mais
qui
oui.
gouvernerait en simultané de oui, façon complémentaire
oui.
à chaque
mais
fois,
mais
comme
oui.
il faudrait avoir un pape et une papesse
oui,
mais pour saper le patriarcat et introduire une parité parfaite.
Mais oui. Un homme et une femme, je ne dis pas un couple marié. Ou...
Non.
Un homme et une femme.
Voter pour un homme d'un côté, voter pour une femme d'un côté,
ensemble.
Et ils doivent travailler ensemble.
Ils doivent travailler en paix.
Ouais.
Ils doivent arriver à faire la paix. Pas de combat, ça doit être de commun accord. Donc, avant de faire, ça je l'ai pas mis dans le livre, mais avant de faire la campagne publicitaire, ils doivent être d'accord et promettre par des lois qu'ils ne vont pas se bagarrer, qu'ils sont la même façon de penser, avec ils peuvent apporter de nouvelles idées, mais de commun accord. Et je pense que les professeurs devraient être comme ça, les médecins devraient être comme ça.
Les chefs religieux devraient être comme ça.
Oui. Les accoucheurs.
Qu'il y aurait des sages-femmes et des sages-hommes.
La sage-femme, c'est toujours l'employé du médecin-chef.
On pourrait inverser.
Non, il faut être pareil.
Pareil,
la même
égale.
Catégorie.
Ouais. Alors le problème, vous le dites, c'est que l'homme a un niveau de conscience animal, infantile et romantique avec lequel il continue de soutenir ceux qui ne l'aident pas, la classe politique ou l'armée.
Moi, je pense qu'une armée, c'est une monstruosité.
Ce livre Psychomagie, ce guide à l'usage de celles et de ceux qui veulent se transformer, est dédié aux jeunes mutants. J'aimerais savoir quel regard vous portez sur la jeunesse d'aujourd'hui.
Il faut bien savoir que les enfants sont un produit d'un père et une mère. Et si le père et la mère sont toxiques, l'enfant est toxique. Et qui doit couper le cordon ombilical? C'est la mère qui doit couper le cordon ombilical. Ni le médecin, ni le père, parce qu'elle fait un enfant, mais que ce n'est pas une continuation et un produit d'elle. C'est un enfant reçu pour peupler le monde. Bueno, alors, quand un enfant vient accoucher et les parents avant savent ce qu'ils font, là, tu as un mutant, c'est-à-dire un enfant normal. Tous les enfants sont des mutants quand tout ça se passe bien. Et je vais te dire une chose, que personne, je crois, au monde a fait ça, je l'ai fait. J'ai éliminé Alejandro et j'ai éliminé Valérie, le nom de la mère. Et l'enfant, Adam, qui maintenant ça devenait un artiste réalisé, fait la même chose avec son fils. Le fils le dit Adam et à sa mère le dit Luna. Il ne dit pas papa, maman. Parce que par l'histoire du papa, maman, on reste enfant toute sa vie. C'est ma maman, je ne peux pas. Mais ma maman est toxique, mon papa est toxique. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais c'est mon père et c'est ma mère, je ne peux pas. Fais rien, je suis un enfant, je souffre. Non, quand les parents sont toxiques, ils sont toxiques. Et on a le droit de les haïr et de ne pas les aimer. Pire simple. Et un adulte, ça a une autre relation avec le père et la mère. N'est pas dépendant de la mère, n'est pas dépendant du père. Je m'excuse de penser comme ça, mais.
Ah non, pas de problème.
Mais je l'ai pratiqué. Et là, tu fais des enfants mutants. À 3 ans, déjà, les enfants peuvent parler plusieurs langages, jouer des instruments, marcher bien, danser. L'être humain est un mutant, déjà. Sauf qu'il est prisonnier de vieilles habitudes qu'il faut. Moi, mon enfant Adam, tu vois, allait à la maternelle. Et les deux professeurs, les deux maîtresses qu'il avait, étaient filles d'ouvriers. Donc l'école, la petite école, était comme une fabrique, gris, triste, sévère, n'est-ce pas? Sévère, ça, comme si c'était des ouvriers, les enfants. Discipline. Et j'ai fait une convocation avec les pères de famille, réuni l'argent, et on a peint l'école avec des beaux couleurs. On a peint les nuages, le ciel, des coussins, des amusements. Et c'était un plaisir, je l'ai fait pour Adam, d'aller à la maternelle. Tu vois?
Nova Bookbox, c'est comme un jukebox, mais avec des livres.
J'en ai connu des jolies filles, 10 fois plus belles que toi. J'en ai connu avec des corps parfaits qui ne m'ont jamais fait l'effet. Que tu me fais, me fais, me fais, me aïe. Dès que tu t'assieds, je suis fait. Oh, j'aime, j'aime, j'aime.
J'aime tes genoux, ou plutôt, vous l'avez reconnu je pense, Shame, Shame, Shame. Le hit 70s des Américains Shirley et compagnie, repris en 2010 de manière assez légère par le fils d'Alejandro Jodorowsky, Adam Jodorowsky, qui adressait en 2015, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, une longue lettre d'amour à son père, dont voici quelques extraits. Cher père, Alejandro, toi qui as toujours pensé qu'appeler papa son père est une erreur, un jour tu m'as dit... Je vais t'apprendre à penser. Nous étions en Espagne, en vacances, sur une île, et chaque matin, tu me donnais des cours de réflexion. Chaque père devrait enseigner à son enfant la réflexion. Les enfants ne sont évidemment pas stupides, ce que vous leur enseignez restera en eux à jamais. Grâce à ça, tu m'as marqué pour toujours. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que l'univers? Quel est notre but dans cet univers? D'où viens-je? Où vais-je? Suis-je un corps habité d'une âme ou une âme habitant un corps? Ta vérité est une vérité, pas la vérité. Tu m'as appris à parler en tant que personne délicate et consciente. Quand j'étais enfant, tu me parlais doucement comme à un adulte. Tu ne m'infantilisais pas en me parlant d'une voix de dessin animé. Les parents ont l'habitude de parler à leurs enfants comme s'ils étaient des poupées, mais toi, tu me parlais comme on parle à un être humain. J'ai appris à commencer mes phrases par « selon ce que je pense » et « je peux me tromper ». Au lieu de réprimer ma créativité, tu m'as acheté des pinceaux pour que je puisse peindre sur les murs de ma chambre. Rien ne m'était interdit. Lorsque je faisais une erreur, nous en parlions et la corrigions. Tu avais confiance en moi et dans mes propres limites, celles que je m'étais fixées moi-même. Je pouvais tout demander, tout faire. J'étais un enfant et nous parlions ouvertement de sexe, sans morale religieuse, qui aurait pu nous laisser penser que c'était quelque chose de fou. Quand quelqu'un faisait l'amour dans la maison, le lendemain, c'était la fête. Bien que ma mère et toi, vous soyez séparés quand j'avais 8 ans, tu ne m'en as jamais dit du mal. Tu n'as pas essayé de détruire l'amour que je lui portais. Et tu as créé une relation d'amour entre mes frères et moi, sans esprit de compétition, nous aimant chacun différemment. Quand je tombais dans la rue, tu me disais « Samouraï !» pour qu'à chaque pas, mon regard sur le monde soit conscient. Le samouraï ne se laisse jamais distraire. Je te regardais écrire 8 heures par jour, toute ta vie dédiée à ton art. Tu m'as parlé de ce qu'est vieillir, comme de quelque chose de beau. Et grâce à toi, j'apprécie chaque année qui passe sans crainte de la mort. Merci de me donner cette vie, ton fils Adam, qui t'aime.
Nova Book Box, c'est comme un jukebox, mais avec des livres.
Alejandro Jodorowsky, sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment?
Et quoi, je ne travaille pas, regarde ça. Ça, c'est les produits des mois.
La réédition de votre œuvre à l'occasion de 90 ans?
Je suis là, en faisant, on est en train de rééditer mes succès dans la bande dessinée. Mais j'écris, je travaille maintenant sur le troisième volume de Les Enfants del Topo avec José Ladrón. Je travaille avec Joan Lee, je pense qu'il s'appelle, c'est Tan Chinois qui est en Chine, qui fait le quatrième volume de Sang Royal. Et ça vient de sortir le quatrième volume de Le Pape Terrible avec Théo en italien. Je prépare avec ce Yougoslave, je prépare un préquel de Technopap. Et j'ai fait un contrat avec Humanoïde pour faire une nouvelle histoire de science-fiction qui s'appelle Cosmopirate. Que c'est un univers lointain où les propriétaires de l'univers sont les banquiers. Et puis, je suis en train d'écrire un livre, un nouveau livre, comme la psychomagie, tout ça, s'appelle Psychotrans. Pour dépasser la méditation religieuse, que tout le monde connaît la méditation zen, et faire la méditation qui correspond à un être humain qui n'est pas gourou, qui n'est pas religieux, qui est un être humain. Et comment arriver à avoir les bénéfices de la méditation et l'ouverture de l'esprit? Un être humain, pas un gourou, pas un sainteté, un être humain, la transe. On a créé avec Pascal un peintre qui fait des expositions maintenant. Hein? On est dans l'art moderne actuel avec Pascal Alejandro, derrière toi, tu as une des œuvres là. Là, celle-là.
Il y a un tableau derrière moi.
Oui, c'est ça.
Qui représente un homme bleu avec des moustaches. De ses yeux sortent des lettres dorées nommées, qui disent Nada. C'est écrit Nada aussi sur son ventre. Il a des sortes d'ailes roses.
C'est un collage.
Un fond vert, un collage.
Un collage, très bien. Et là, je suis en train de faire ça. Et une exposition de les lettres de remerciement des actes de psychomagie en Japon. Japon, on fait une exposition. De lettres, de conseils de psychomagie. Mais qu'est-ce que j'ai fait en ce moment? Ah, mais j'ai fait chaque jour Twitter, au moins 10 Twitter, et j'ai fait aussi Facebook, aussi, 2 heures, tous les jours, pour ces 6 millions de personnes.
C'est beaucoup, hein? Ça fait beaucoup de choses, tout ça.
Ah ouais. Je l'ai fait.
Et est-ce que vous envisagez de donner une suite à ce cycle autobiographique qui était La danse de la réalité,
oui,
Poésie Assine Fine,
oui,
un troisième film?
Oui, c'est Voyage essentiel Moitié en France, moitié au Mexique, mais c'est pas un projet. C'est, déjà, j'ai l'économie pour payer la moitié du film, déjà.
Mais le scénario existe.
Si, je l'ai fait. Maintenant, les producteurs, tout ça, au Mexique, c'est fait déjà.
Le voyage essentiel, ça
s'appelle. Voyage essentiel, c'est la fin de la trilogie, oui.
Il vous reste à réunir la seconde moitié du budget.
Si, mais quand j'ai fait Poésie sans fin, on n'avait pas suffisant d'argent. Mm-hmm. Alors je l'ai dit à mon producteur exécutif, Javier Guerrero, il a dit, écoute, on va se lancer et Dieu proveera. Alors, si je n'arrive pas à le finir et on a de l'argent pour la moitié du film, je m'assois sur une chaise comme ça et je parle à la caméra avec un fond neutre et je raconte le final que je ne peux pas faire. Et je présente un film en conclu. Mm-hmm. Et on s'est lancé comme ça. Et on a pu le faire par crowdfunding. Celui-là, c'est pareil. D'ici à 6 mois, je me lance à le filmer, la moitié que j'ai.
Et on verra.
Et on verra, j'aurai une heure. Une heure, et après j'aurai pu faire ce film, et je raconterai ce que je n'ai pas pu faire.
Bien.
Ou bien, je m'arrête, ou je le complète. Mais je le ferai.
Bien. On vit une vie misérable. La plupart des gens n'arrivent même pas à vivre un siècle. C'est lamentable, minable. Le moins qu'on pourrait être en droit d'espérer, c'est de vivre 3000 ans. On pourrait voir des villes flottantes ou de nouvelles espèces d'animaux créées génétiquement. Ou encore, d'ici 3 ou 4 siècles, une grande crise qui ne signifiera pas la fin de l'humanité. Car au milieu de cette grande décadence, l'homme changera son niveau de conscience pour améliorer ce peuple de connards mal dans leur peau qui votent pour des politiques stupides. Ça, c'est quelque chose que vous m'avez dit ici même, il y a 13 ans, en 2006, quand j'étais venu chez vous pour une autre interview. Et c'était juste après la sortie de votre livre « Mu, le maître et les magiciennes ». Et à l'époque, vous m'aviez aussi dit que ce dont vous étiez le plus fier dans toute votre vie, c'était d'avoir développé votre âme. Vous appeliez ça la montée. Alors, vous venez de fêter vos 90 ans. Est-ce que je vous repose la question, est-ce que c'est encore ça dont vous êtes le plus fier?
Ça a changé un peu. De toute façon, ça me donne grande joie. Je disais, là, tu parles bien. J'étais en train de dire, oui, oui, il a raison. C'était moi. Ouais. Mais je disais, mais avec certaines choses. Cette histoire de développer l'âme, et là, j'ai commis l'erreur. Parce qu'on est avec l'âme telle qu'elle est. Donc, la conscience aussi, on est avec la conscience parfaite. On est en mi-temps. Mais on est dans un piège de préjugés, d'héritage et de tout ça. Parce que la tâche qu'on a, c'est pas se trouver à soi-même. On est prêt déjà, en enlevant les obstacles. Et ça, c'est bon, la vieillesse. À la vieillesse, tu oublies la nécessaire. Tu te défais des intérêts que tu vas pouvoir, tu sais, mon temps est compté. Alors, tu vis l'essentiel. Et là, tu trouves ton âme, parce que ce qui est essentiel, c'est l'âme. Et là, tu connais des plaisirs incroyables qui t'arrivent comme des cadeaux. C'est que l'âme est plus sage que l'être conscient de tous les jours.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Alors j'aimerais vous dire au revoir en espagnol, mais je n'ose pas dire adios.
Adios.
Parce que je sais que, en fait, pour vous, Dieu, c'est cette force obscure qui représente tout ce que nous ne comprenons pas. Alors qu'est-ce que je peux vous dire pour vous saluer? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Alejandro Jodorowsky?
Souhaiter de quoi?
La manière de vous dire au revoir. Quelle est la meilleure façon, si je le dis en espagnol? À part adios, il y a une autre façon?
On n'a pas besoin de se dire au revoir, parce qu'on sera toujours ensemble.
Et c'est ainsi que se termine le second et dernier épisode de cet entretien avec Alejandro Jodorowsky. Merci à lui. Le précédent est disponible en podcast sur Nova.fr. L'émission de ce soir a été réalisée par Sullivan Clabeau. Comment va ton âme, mon coco?
Je fais de la psychomagie, là. Je fais de la psychomagie.
C'est un acte psychomagique, je le laisse tranquille. Programmation musicale, Michael Lio. Dimanche prochain, de midi à 1h, je recevrai deux dessinateurs invités du festival Bédérama, qui aura lieu le dernier week-end de septembre au Forum des Images de Paris. l'américaine Emile Ferris, l'autrice de « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres », meilleur album du Festival d'Angoulême 2019, puis l'italien Lorenzo Mattotti pour son adaptation au cinéma du classique pour enfants de Dino Buzzati, la fameuse invasion de la Sicile par les ours, en salle le 9 octobre. Bon après-midi, bon dimanche et besitos.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.